Bonjour, je suis Roselyne Doré et j'ai des envies de voyage. Que diriez-vous de dessiner ensemble un espace, pourquoi pas un carré, dans lequel partager, raconter, inventer, rêver, créer, à partir d'un simple fil de soi? Vous savez, ce fil magique qui se débobine entre les mains des artistes et des artisans, et de tous les passionnés de la vie et de ses beautés en général. Ce fil qui tisse des liens, parce qu'il est irrigué de cette audace de liberté qui nous rend plus amoureux de tout et de rien, tout simplement. Voulez-vous créer ensemble cet espace dans lequel tisser, au fil des épisodes, une grande toile faite de tous ces petits riens, en apparence, qui pourtant forment le sel de nos vies? Il s'agit ici d'ouvrir un regard sur nos manières de dire « je t'aime » par nos actes créatifs, au monde qui nous entoure. J'ai envie de m'asseoir avec vous, quelques instants, au coin du feu, pour le regarder crépiter, en écoutant ces récits qui, comme des battements de cœur, nous font dire au final « elle est pas belle la vie ?» Car explorer la soi, n'est-ce pas aller à la rencontre de soi, tout simplement? Ceci n'est pas un podcast, ceci est une liberté de créer. Alexandra a fait de l'amour le cœur de sa vie. Psychologue clinicienne et sexologue, elle restaure chez ses patients l'estime, la bienveillance et la douceur envers soi-même, de manière à épanouir nos vies et nos liens aux autres. Par ailleurs, elle est aussi coach au sein de l'Académie des Arts de l'Amour, fondée par Julie Duchemin et Pascal de Sutter, dans le cadre du programme Sexy Lady, qui vise à épanouir le plaisir et le désir des femmes. Et parce qu'elle sait combien la manière dont on communique notre amour à l'autre, et spécialement à nos plus proches, dépend de l'amour que l'on s'octroie à soi-même, elle a décidé d'en faire un sujet de recherche scientifique au sein de l'Université catholique de Louvain. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir cette amoureuse de la vie et de l'amour, tout simplement. Bonjour Alexandra.
Bonjour.
Alors, j'ai envie de commencer par une question un peu personnelle, parce que je pense que nos quêtes sont basées sur nos expériences de vie, et donc souvent de nos manques également. Aussi, j'ai envie de commencer par te poser cette question. Qu'est-ce qui t'a permis de comprendre personnellement à quel point l'amour de soi est un élément central du bien-être?
Alors, comme tu le dis, nos quêtes sont basées sur nos manques et sur nos expériences. Et donc pour ma part, c'est d'abord d'une manière un peu négative que j'ai appris ce concept, puisque étant donné que j'ai une malformation veineuse au visage, j'ai d'abord appris l'amour de soi plutôt du côté de la haine. Mmh. C'est-à-dire que j'ai appris à... j'ai appris à mes dépens que quand on est différent, on reçoit des insultes, des moqueries, du rejet. Et ça a provoqué chez moi une réaction de haine vis-à-vis de moi-même. Alors ça, c'est le versant un peu triste ou net de l'histoire. Ce qui est bien, c'est que par la suite, je me suis demandé oui, comment je vais pouvoir me sortir de ça, me sortir de cette haine. J'ai pas trouvé les réponses tout de suite. Mmh. Ça a pris vraiment un certain nombre d'années, un certain travail sur moi-même. Et finalement, c'est vraiment au cours d'une rencontre que j'ai compris que la clé, c'était de l'amour. Vraiment. L'amour en tant que tel. Alors, ce qui est assez particulier, c'est que cette rencontre, c'était la rencontre d'une personne que j'aimais profondément, et qui m'aimait profondément elle aussi, et qui avait vécu un parcours un petit peu similaire au mien. Aussi du rejet, un peu une différence, pas forcément physique, mais une différence qui fait que elle a reçu du rejet, des moqueries, des insultes. Et c'est à travers l'aide que je voulais lui donner que j'ai appris les clés, finalement, qui ont fini par m'aider moi-même et que je transmets aussi à mes patientes, à mes clientes aujourd'hui. Puisque c'est en essayant de faire ce travail ensemble qu'on a vraiment trouvé le chemin à suivre. Mmh. Et cette prise de recul que j'ai faite en essayant d'aider cette personne, c'est ce que j'apprends aujourd'hui à mes clientes.
Mmh. Donc c'est grâce à l'autre que tu as pu trouver les ressources à l'intérieur de toi pour les offrir à quelqu'un d'autre et en retour te les offrir à toi-même.
Oui, vraiment. Parce que, en fait, on est très dur avec soi-même. Mmh. Et même dans la souffrance, dans la pire des douleurs, on est dur avec soi. Mmh. On a tendance à s'auto-flageller, à être encore plus sévère que ce que la vie peut parfois l'être. Mmh. Tandis qu'avec l'autre, c'est beaucoup plus facile. Hein. Mmh. On a tendance à justement prendre dans nos bras, à réconforter, à consoler, à apporter tout le soutien nécessaire. Mais quand il s'agit de soi, c'est beaucoup plus difficile. Mmh. Et donc, la prise de recul, le fait de se dire, mais tiens, avec une personne que j'aime profondément, comment est-ce que je ferais ? Mmh. Avec une personne qui a vécu la même chose que moi, qu'est-ce que je lui dirais ? Mmh. Quel geste je ferais que... Voilà, qu'est-ce que je ferais face à cette personne pour l'aider ? Mmh. Moi, c'est mon parcours et c'est ce qui m'a permis d'aider les autres.
Et bon, je pense que nous sommes tous des juges impitoyables pour nous-mêmes, mais je pense que les femmes, de manière générale, sont assez douées là-dedans. Je crois que, tout en tant que femme, nous pouvons dire que nous connaissons le jugement envers nous-mêmes. Est-ce que tu as des explications ou des observations par rapport à ça dans ton parcours ou quelque chose ?
Oui, tout à fait. Donc, je dirais que les hommes et les femmes... Enfin, c'était plutôt l'inverse, c'était les femmes et les hommes aussi.
Oui.
Parce que là, dans ce que tu me demandes, c'est plutôt les femmes qui sont concernées. Mais il faut savoir que les hommes aussi, c'est oui. juste que c'est peut-être un petit peu moins explicite. Mm. Les hommes doivent, entre guillemets, montrer un petit peu plus de force et d'estime. Oui. Mais je pense qu'au fond, c'est le même combat pour les hommes comme pour les femmes. Alors, l'explication qu'on peut en donner... Du moins que moi j'ai pu observer à travers mes consultations, à travers mes patients, mes patientes, etc. C'est que nos premières relations nous servent...
Quand tu dis nos premières relations, ce sont nos premières relations en tant qu'enfant ou nos premières relations en tant qu'adulte, nos premières relations amoureuses ?
Les deux, mais je dirais que principalement pour commencer les premières relations en tant qu'enfant.
D'accord.
C'est-à-dire avec notre entourage, hein, les parents... la famille, les camarades de classe, les gens qu'on rencontre dès notre plus jeune âge, nous donnent une source d'informations énorme. Puisque quand on est enfant, toutes les informations qu'on reçoit de notre environnement, on les prend pour argent comptant. On ne met pas les choses en question, donc on le prend pour la vérité. Et cette vérité, on en tire des conclusions. Et donc, si en tant qu'enfant, on est traité avec amour, on en tire la conclusion qu'on est digne d'amour, qu'on est digne d'être aimé, et on aura beaucoup plus facile à s'aimer soi-même par la suite. Mmh. Il en va de même pour le respect. Mmh. Si on est respecté, si on ne nous fait pas de mal, on aura beaucoup plus facile à penser qu'on est une personne respectable. Mmh. Voilà, on tire des conclusions de nos expériences. Mmh. Et l'amour, c'est un besoin. En fait, il y a deux grandes émotions, c'est l'amour et la peur. Mmh. Il en découle deux grands besoins. C'est le besoin de sécurité et le besoin d'amour. Et donc vraiment, quand on reçoit pas cet amour à la base, que ce soit de nos parents principalement, mais aussi des autres. Hein. On peut très bien avoir des parents aimants et finalement, avec les autres, les pères, comme on dit, ça se passe un petit peu moins bien. Et bien, quand ce besoin n'est pas rempli, c'est compliqué. Mmh. C'est compliqué parce qu'on en tire des conclusions et on se dit, ben moi, voilà, je suis pas aimable. Au sens premier du terme. Mmh. Je ne suis pas digne de recevoir cet amour.
Mmh. Oui, tout à fait. Et donc, pour toi, le passif en tant qu'enfant ne nous appartient pas, mais nous avons ensuite tout notre travail d'adulte de se réapproprier l'amour. Alors, tu as expliqué à quel point c'est difficile d'y accéder par soi-même. Est-ce que tu pourrais nous dire déjà quels sont les plus grands bénéfices à y accéder et comment est-ce que tu y es parvenu par toi-même ?
Alors, les bénéfices. Comme je l'ai dit, finalement, il y a deux grands besoins fondamentaux. Hein, oui. C'est la sécurité et l'amour. Le besoin d'amour, en fait, c'est ce qui nous permet d'être complet. De nous sentir en harmonie, en équilibre, de nous sentir bien en général.
Et de prendre confiance en soi, du coup.
Et de prendre confiance en soi, bien évidemment. Mm. Mais aussi, qui nous permet de nous sentir en sécurité. Mm-hmm.
Tout à fait.
Puisque l'amour, ça peut aussi agir comme un bouclier, en fait. Ça permet de traverser des difficultés, de passer par des phases de vie qui sont compliquées. Mais quand il y a de l'amour, il y a de l'espoir, en fait. Donc l'amour, c'est très, très, très puissant. Et en fait, quand on manque d'amour, on peut avoir tout le reste. Finalement, il y a quand même un sentiment de manque. Il y a quelque chose qui n'est pas présent. On ne se sent pas complet. Donc ça fait déjà partie des bénéfices très, très importants du fait de se sentir aimé et de s'aimer soi.
Et qu'est-ce que tu observes comme obstacles principaux à accéder à cet amour de soi ?
Alors, le fait déjà de ne pas se sentir digne.
Oui.
Et ça, comme je l'ai dit, c'est pas fataliste, parce que c'est pas parce qu'on a vécu des expériences négatives dans le passé, dans l'enfance, etc., qu'on a forcément des difficultés par après. Mais c'est vrai que quand on vit des expériences négatives, des traumas, des abus, ou même du rejet, un abandon, etc., on en tire des conclusions, comme je l'ai dit, et ça, c'est un frein énorme. Maintenant, j'ai perdu le fil de ta question.
Je dirais que c'est plus les difficultés principales que tu observes.
Okay. Voilà, les difficultés principales.
Oui, les obstacles.
Mais quand on vit ce genre de choses, on ne se sent pas digne,
oui.
Comme je l'ai dit. Alors, un autre obstacle pour accéder à l'amour de soi, c'est aussi peut-être le perfectionnisme. L'impression qu'en fait, l'amour, c'est une faiblesse. Et quand on veut être dans la force, dans la compétition, la performance, en fait, se dire que l'amour, ça n'a pas sa place et ça ne sert à rien, c'est pas ça qui va nous faire avancer, c'est pas ça qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Peut-être en fait une vision erronée de l'amour et de l'impact que ça peut avoir sur la vie en général, je dirais.
Et puis je pense aussi que la difficulté, c'est que l'amour nous demande de descendre à un autre niveau. Ce n'est pas un niveau intellectuel, ce n'est pas de l'ordre de la pensée ou de la volonté ou de ce genre de choses. C'est un autre niveau qu'on doit le trouver. Et donc c'est vrai que la plupart du temps, je pense que l'obstacle est aussi de pouvoir parvenir à descendre à ce niveau.
Oui, tout à fait. Quand on est à 1000 kilomètres de ses émotions, de soi, c'est sûr que accéder à l'amour de soi, même l'amour des autres, c'est très compliqué.
Oui, parce que tu parles de l'amour des autres, parce qu'on peut recevoir tout l'amour que l'on veut de la part de son entourage d'aujourd'hui, j'ai envie de dire, du temps présent. C'est pas pour ça qu'on y croit. On se dit qu'ils sont des menteurs, que des tas de choses.
Oui, que c'est pour nous faire plaisir, voilà, que c'est faux.
Oui.
Bien sûr, ça c'est certain. C'est observable en fait. C'est seulement à partir du moment où on s'aime soi-même, sincèrement, qu'on est réceptif aussi au regard, à l'amour, aux compliments, à tout ce qui peut se passer en fait. Parce que quand on ne s'aime pas, on a beau nous dire tous les mots doux, tous les compliments qu'on veut, ça n'aura pas l'impact voulu, ça c'est sûr.
Je pense aussi, dis-moi si tu es d'accord avec ça, que je pense que c'est un processus aussi. Une chose en amène une autre. Et donc, petit à petit, c'est un lien qui se restaure. Mais parfois, je pense de manière... Enfin, dis-moi ce que toi, tu en penses avec ton expérience. Je pense que c'est quand même un processus relativement lent, qui prend son temps, qui a besoin de s'ancrer. Et que cette lenteur est probablement bénéfique aussi, parce que c'est de cette manière-là que les plantes poussent, les nouvelles plantes poussent.
Bien sûr. Et c'est le travail d'une vie, en fait. Il y a des pas en avant, des pas en arrière, des allers-retours. C'est quelque chose qui se travaille constamment. Ça, c'est sûr, ça prend du temps et c'est bien comme ça.
Et tu as dit tout à l'heure que le fait d'avoir aidé cette personne que tu as aimée t'a permis de trouver les outils pour aider tes clients aujourd'hui. Tu peux nous parler un petit peu de ces outils que tu utilises pour restaurer l'amour de soi ?
Bien sûr. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est essayer de comprendre le pourquoi du comment. Donc, pourquoi ? On va enquêter, c'est un peu ça. On va creuser, poser des questions jusqu'à ce qu'on trouve la réponse. Du pourquoi, finalement, pourquoi il n'y a pas d'amour de soi. Qui, quoi, qu'est-ce qui s'est passé pour que cette personne, un jour, se dise « mais en fait, moi, je ne m'aime pas, je ne suis pas digne, voilà, moi, je ne suis pas assez bien, je suis inférieure, etc. » Et comprendre l'origine, parfois, à elle seule, enfin, cette étape à elle seule, peut parfois faire vraiment des miracles. Puisque comprendre la chose, comprendre l'origine, ça permet de la remettre en question.
Tout à fait, de prendre du recul, le fameux recul dont tu parlais.
De prendre du recul, effectivement. Alors, si cette étape est suffisante, tant mieux. C'est pas toujours le cas, bien évidemment. Ce qu'on va alors faire, ce qui est souvent nécessaire d'ailleurs, c'est une étape de pardon. Parce que quand on est dans la rancœur, donc une fois qu'on a compris d'où ça vient, si c'est pas encore fait, on peut parfois ressentir de la haine, de la rancœur, de la colère vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de quelque chose, ou même vis-à-vis de soi. Et en fait, la rancœur, la haine, toutes ces émotions négatives provoquent de la résistance. Et quand on est dans la résistance, c'est impossible d'aller vers le changement. Voilà, la résistance empêche le changement, tout simplement. Donc on va pardonner. Pardonner des personnes, des événements, des choses. Pardonner soi. Alors, toute cette haine aussi qu'on s'est octroyée.
Par rapport au pardon, je pense que c'est un mot qui est souvent difficile à accueillir pour les personnes qui sont en souffrance. Comment est-ce que tu définirais, toi, le pardon? Le juste pardon, justement. Parce qu'on ne peut pas effacer l'acte, s'il y a acte, voilà. Comment est-ce qu'on peut vivre un pardon malgré ça?
Alors, quand on apprend à pardonner, on commence d'abord justement par accepter toutes les émotions négatives qu'on a. Donc effectivement, comme tu le dis, après certaines expériences, certains vécus vraiment horribles, c'est compliqué d'aller vers le pardon. On se dit mais voilà, c'est pas pardonnable. Et donc l'un n'empêche pas l'autre. On peut, en fait, la personne, je vais l'aider d'abord à sortir toutes les émotions négatives, dire tout ce qu'elle a sur le cœur. Mais ensuite, le pardon, c'est le fait de dire « Ok, il s'est passé tout ça, mais je lâche. » Je lâche, en fait, je vois le pardon comme un lâcher-prise. C'est comme si cette personne portait un poids, portait un sac qui est vraiment lourd depuis des années. Et pardonner, c'est de se dire « Ok, je lâche. Voilà, je lâche ce sac. Il a existé, il est là, mais je ne laisse plus impacter ma vie comme ça a été le cas pendant des années. »
J'avais entendu que étymologiquement, je ne sais plus exactement comment c'est, mais que le pardon, ça veut dire rendre sa part à l'autre. Et donc, c'est rendre sa part de responsabilité à l'autre et prendre sa part de responsabilité. Et notre part de responsabilité, c'est de vivre et de profiter de la vie. Et voilà, je pense que c'est aussi juste de pouvoir dire, voilà, ça a appartenu à l'autre, ça ne m'appartient plus, j'en ai plus besoin. Et maintenant, j'ai envie d'aller vers mon propre chemin.
Oui, c'est exactement ça. C'est ce qu'on se dit vraiment en thérapie. Hein, c'est rendre, par exemple, avec les parents, parfois qui ont eu un impact, c'est rendre à vos parents ce qui leur appartient.
Tout à fait.
Rendre à l'autre ce qu'il a, lui, ce qu'il vit, lui, qui a eu un impact sur nous, certes, mais rendre à l'autre. C'est exactement ça, oui.
Et donc, on a le pourquoi du comment. Ensuite, on a le pardon. Est-ce qu'il y a encore une étape?
Oui. L'étape d'après, ça va être apprendre.
D'accord.
Apprendre l'amour.
Ah oh, ça c'est, c'est un gros challenge.
C'est un gros challenge, oui, effectivement. Et c'est là qu'intervient aussi la prise de recul, encore une fois. Où justement, je donne l'exemple, je demande souvent aux patients de s'imaginer une personne qu'ils aiment profondément, qui aurait vécu la même chose. Je leur demande, qu'est-ce que vous feriez? Voilà. Quel mot vous allez utiliser? Quel geste? Qu'est-ce que vous allez faire? Quelles sont les choses que vous allez mettre en place pour aider cette personne? Alors, ils déballent, hein, voilà, ils expliquent. Ensuite, voilà. Et maintenant, pourquoi pas vous? Pourquoi pas avec vous? Pourquoi pas tous ces gestes, tout cet amour, toute cette bienveillance, toute cette compassion? Pourquoi pas, justement, vous octroyer, vous donner ces gestes à vous-même? Et ça, en général, c'est assez puissant aussi.
Et c'est là que tu peux cerner, j'imagine, tous les obstacles de la personne de manière plus précise à s'octroyer, justement, puisqu'elle a les solutions pour l'autre, mais elle ne les a pas nécessairement pour elle-même. Du coup, ça te permet de voir qu'est-ce qui bloque encore dans le processus de la personne.
Souvent, c'est aussi une habitude. Hein. C'est juste quelque chose qu'on n'a pas appris.
Oui.
C'est pas quelque chose qu'on nous apprend, que nos parents, l'école ou la société nous apprend à nous donner de l'amour, hein, même de manière physique. Je veux dire, à se serrer dans les bras, c'est pas quelque chose qu'on voit. Et pourtant, au niveau du cerveau, il se passe la même chose au niveau hormonal. Quand c'est quelqu'un d'autre qui nous fait un câlin, qui nous serre dans les bras, ou si on le fait nous-mêmes. Et donc, tous ces gestes-là, on les apprend, même s'il y a des blocages. Alors, on va tout doucement les déjouer, bien sûr, mais c'est vraiment cet apprentissage-là, mais au travers de cette prise de recul.
Et alors, est-ce qu'il y a encore une étape après ?
L'étape d'après, c'est le passage à l'action.
Ok.
Parce que c'est bien de savoir, voilà, on a mis des mots, on a enquêté, on a trouvé la cause, on a compris. Le plus dur maintenant, c'est agir, passer à l'action. Et donc là, on va pas forcément planifier, mais on va parler de ce qu'on va faire, des choses concrètes. Ça va passer vraiment par des petits actes, hein, comme le fait de prendre du temps pour soi. Ça aussi, c'est de l'amour. De se libérer une heure pour lire un livre, pour aller, si c'est une femme, chez l'esthéticienne, pour faire des choses, en fait, qui nous donnent aussi du bonheur, du bon temps, qui nous ressourcent. Ça aussi, c'est se donner de l'amour. Donc, ça va commencer vraiment progressivement, par des petites choses comme ça. Ensuite, ça peut aller vraiment jusqu'à même la sexualité, en fait. Puisque c'est assez... je dirais pas étonnant, mais il y a beaucoup de femmes qui expliquent qu'en fait la sexualité, le fait de se reconnecter à un partenaire ou même à soi, quand on parle d'auto-érotisme, ça permet de recouvrir un peu cet amour de soi. Donc voilà, il y a différentes étapes, différents stades, mais c'est partout ça qu'on fait ce travail d'amour.
D'accord. Bah, tu nous amènes déjà là au prochain épisode, mais je crois qu'on va en rester là pour celui-ci. En tout cas, un grand merci pour ce beau partage et tout ce que tu nous as offert durant cet épisode.
Merci à toi.
Merci Alexandra.